Bonjour chères auditrices et auditeurs de Radio Judaïka. Bienvenue dans l'émission Kol Hillel, proposée par la communauté israélite libérale de Belgique, synagogue Beit Hillel. Gaëlle, bonjour.
Bonjour Jacqueline, bonjour Rabbi, bonjour chers auditeurs et auditrices.
Dans notre précédente émission, nous nous sommes entretenus avec le rabbin Marc Neger de l'euthanasie et plus généralement de la fin de vie provoquée. Si vous l'avez manqué, je vous rappelle, chères auditrices et auditeurs, que toutes nos précédentes émissions peuvent être téléchargées sur notre site www.bethillel.org dans l'onglet publication. Aujourd'hui, nous allons aborder en compagnie du rabbin Neger une réflexion sur le commerce équitable en regard du judaïsme. Alors, on pourrait a priori penser qu'il s'agit là d'un sujet réservé à quelques aficionados d'écologie ou de nourriture labellisée bio. Et pourtant, le commerce équitable, dont il va être question dans quelques instants avec notre rabbin, nous concerne tous. Qu'il s'agisse de la qualité de l'air que, par notre posture de vie, nous donnons à inhaler et qui, malheureusement, ces derniers jours, est vraiment d'actualité, de la condition animale que, par nos habitudes alimentaires, nous concourons à dessiner ou de la pauvreté que, par nos comportements d'achat, nous contribuons à planifier. Alors, Rabbi Neger, bonjour.
Bonjour Jacqueline, bonjour Gaëlle, bonjour chères auditrices, chers auditeurs.
En guise d'introduction à notre conversation du jour sur le commerce équitable et aussi par la force des choses sur la cache-route, je voudrais revenir quelques instants sur des données concrètes de dérives auxquelles les consommateurs que nous sommes apportent leur concours, le plus souvent bien malgré eux. Selon le dernier rapport de l'Organisation internationale du travail, publié en septembre 2013, 168 millions d'enfants seraient en situation de travail partout dans le monde, ce qui représente environ 11% de l'ensemble des enfants. Parmi eux, les enfants effectuant des travaux dangereux qui mettent directement en péril leur santé, leur sécurité et ou leur développement moral constituent plus de la moitié, soit 85 millions d'enfants. Ce chiffre est effrayant. Voilà. Alors, ces petits, parfois âgés d'à peine 5 ans, sont bien souvent exploités dans les travaux agricoles ou artisanaux. Alors, à titre d'exemple, nous avons révélé qu'en Côte d'Ivoire, pays qui exporte 40% de la production mondiale de cacao, ce sont près de 200 000 enfants qui travaillent dans les champs au profit final des multinationales du chocolat dont je tairai aujourd'hui le nom. Alors, il faut savoir que dans ces champs de cacao, il n'y a ni électricité, ni eau potable, que ces enfants, qui ne sont pas toujours accompagnés de leur famille, dorment sous des abris de fortune, couverts de feuillage, dans une région où, on le sait, le paludisme est endémique et où les morsures de serpents sont mortelles. Alors, la condition de vie de ces enfants qui travaillent dans les champs de cacao est épouvantable. Et ils ne bénéficient d'aucun soin de santé. Quant à leur rémunération, on leur promet, pour chaque récolte l'équivalent de 200 ou 300 dollars, mais bien souvent, cet argent est retenu en utilisant l'un ou l'autre subterfuge. Alors, il n'y a pas que l'économie agricole qui exploite les enfants. Des entreprises manufacturières, parfois très connues, font aussi appel à eux. Ainsi, à titre d'autres exemples, en Chine, des enquêtes menées en 2012 dans plusieurs usines produisant des pièces pour une marque asiatique de renommée mondiale ont révélé que les enfants très jeunes étaient employés à la fabrication des smartphones. Voilà. Alors, la démarche du commerce équitable, au sens habituel du terme, consiste à utiliser le négoce comme un levier de développement et de réduction des inégalités, en veillant à la juste rétribution des producteurs et en garantissant les droits des travailleurs marginalisés. Seulement voilà, à cette perspective économique s'ajoutent des préoccupations sociales, environnementales et morales qui vont même au-delà du commerce équitable proprement dit, puisque souvent on assimile celui-ci à de l'aide aux pays qui sont des pays émergents alors que cette marginalité, elle existe à notre porte aussi, bien évidemment. Alors donc, ce sont ces préoccupations sociales, environnementales et morales qui vont nous intéresser aujourd'hui. Et donc, Rabbi Neger, je propose que nous en venions donc maintenant au judaïsme. Et j'ai envie de vous poser une première question. De nombreuses synagogues libérales de par le monde et en Israël s'engagent en faveur du commerce équitable. Est-ce à dire qu'il existerait une résonance juive spécifique et forte à donner à ce sujet ?
Je dirais que dans le monde anglo-saxon, ça semble aujourd'hui une évidence, en Israël aussi, pas uniquement dans les synagogues libérales, dans les synagogues de toutes les tendances, mais c'est vrai que les synagogues progressistes, les synagogues libérales, sont un peu le fer de lance de ces mouvements et s'allient avec des associations non, parfois non juives, comme Fair Trade Foundation en Angleterre, pour soutenir des projets de commerce équitable, pour sensibiliser les populations européennes au commerce équitable et également pour s'assurer que le commerce équitable apporte quelque chose aux populations qui sont productrices, c'est-à-dire que effectivement, il s'agit à la fois d'apporter quelque chose aux travailleurs, qu'ils soient rémunérés correctement et que ces conditions de travail soient correctes, mais également que des projets éducatifs, de développement, d'environnement durable soient mis en place dans les pays producteurs.
Alors, avant de s'attaquer à la problématique du commerce équitable, est-ce que vous pourriez peut-être commencer par nous rappeler quel est le regard que porte le judaïsme sur la pauvreté ?
Alors, on trouve dans la Torah, dans le Lévitique, on trouve ce verset « Si ton frère déchoit et que ses possibilités décroissent devant toi, tu le soutiendras, étranger ou résident, afin qu'il vive avec toi. Ne lui prends pas ni intérêt ni frais, mais crains ton Dieu afin que ton frère vive avec toi. » Alors, dans ces quelques phrases, on trouve un appel à la justice sociale. Ceci étant, elle paraît s'adresser que à celui qui est à côté de toi, ton prochain au sens de ton voisin. Or, aujourd'hui, dans un monde globalisé, ça peut toucher des gens qui sont également à l'autre bout de la planète. Et donc là, le bien-être matériel, et non pas peut-être pour assurer l'opulence, mais au moins des conditions de vie décentes, nous en sommes tous responsables, à la fois vis-à-vis des juifs, mais vis-à-vis des non-juifs. On trouve également dans Midrash Rabbah sur la Genèse un passage qui dit que si on mettait dans la balance tous les maux, toutes les souffrances que subit l'humanité, et que de l'autre côté de la balance, on mettait juste la pauvreté serait quand même plus lourde que toutes les autres souffrances. Alors ça peut nous interpeller, surtout nous qui avons malheureusement l'habitude d'avoir été des victimes de nos frères humains, mais en même temps, c'est bien montré que la pauvreté est en fait la source d'un des grands nombres d'autres souffrances que subit l'humanité, que donc on doit avant tout lutter contre la pauvreté. On trouve ça dans un grand nombre d'autres textes.
C'est ça. Alors, il existe dans la loi juive un certain nombre de règles à respecter en matière commerciale, puisque c'est ce sujet-là qui nous intéresse, et notamment en matière de vente. Alors, ce serait peut-être intéressant de rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs quelques-unes des injonctions que l'on trouve déjà dans la Torah.
Absolument. Dans le chapitre 25 du Lévitique que j'ai déjà cité avant, on trouve cette phrase « Si tu vends quelques produits à ton voisin ou si tu lui achètes quelque chose, alors qu'aucun ne trompe son frère. » Donc ça veut dire que dès le départ, dans la Torah, on trouve la légitimité du commerce, mais des deux côtés. C'est-à-dire qu'à la fois le vendeur et l'acheteur, le producteur et le consommateur se doivent d'être justes dans leur relation commerciale. On a un très grand nombre de fois dans la Torah l'injonction qui demande à ce que le vendeur ait des poids justes. Et d'une certaine manière, cette présentation met le soupçon sur le commerçant. Mais en réalité, la Torah nous demande d'être juste des deux côtés. Le consommateur aussi n'a pas le droit d'abuser le producteur.
C'est ça. Alors, Bon, vous citez...
Je voulais rajouter quelque chose à propos du Deutéronome, parce qu'on a une autre phrase. Ne cause point de tort aux journaliers pauvres et nécessiteux. Justement, c'est ça le producteur. C'est-à-dire que l'acheteur est responsable des conditions dans lesquelles travaille le producteur et de son bien-être. Et éventuellement du commerçant ou de tous les éléments de la chaîne.
Quand il est riche.
S'il est même pauvre, quand il n'est pas riche, il a peut-être un choix à faire entre le fait de nourrir sa famille ou le fait de moins bien laisser nourrir la famille du producteur s'il est pauvre. Mais s'il a quelques moyens en plus, alors il doit en tenir compte.
C'est ça. Alors, en quoi est-ce que ces prescriptions bibliques trouvent-elles à s'adapter dans un monde économique d'aujourd'hui caractérisé par la globalisation qu'à l'époque, forcément, n'existait pas ?
Évidemment. La grande différence qu'on a aujourd'hui, c'est que, comme je l'ai évoqué plus haut, avant, on était toujours le voisin du producteur ou le voisin du commerçant. On avait des relations de personne à personne. Aujourd'hui, on est à la fois globalisé en termes de distance, mais également globalisé en termes de nombre d'humains qui interviennent dans la chaîne. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de gens ont un peu l'impression, par exemple, que voler une chaîne de supermarché, c'est pas voler puisque c'est personne. C'est pas vrai. Indépendamment même du fait que les actionnaires sont quelqu'un, tous les producteurs, tous les autres commerçants de détail, de gros ou de demi-gros qu'il y a dans la chaîne de production sont des êtres humains. Et finalement, on a à la fois un producteur qui ne sait pas à qui il va vendre et qui donc, je parle là, des dirigeants de la chaîne de supermarché. Ils ne connaissent pas leurs consommateurs et donc ils ne les respectent pas. Et le consommateur, il ne connaît pas les véritables personnes qui sont des intervenants parce qu'au pire, il va rencontrer la caissière au dernier moment de la chaîne, mais ça ne représente pas le supermarché pour lui. Et donc, il va perdre son respect envers le producteur également. Et donc, la relation, elle est faussée parce qu'elle est déshumanisée des deux côtés.
Oui, je suppose que cette déshumanisation est amplifiée par la proximité ou non également.
Absolument, mais c'est pour ça que la manière dont la Torah nous parle, qui parle de relations de personne à personne, nous présente quelque chose qui est plus facile à comprendre, peut-être plus facile à mettre en œuvre. Et notre monde nous masque les réalités et nous masque la réalité humaine de chacune de nos transactions commerciales, en fait. Parce que quand on achète un t-shirt ou quand on achète des fruits et légumes, mais ils ne sont pas arrivés tout seuls dans le magasin ou dans le supermarché. Il y a des gens qui ont travaillé et c'est là qu'on va peut-être se rendre compte que est-ce que tous les ouvriers qui ont participé à ce produit ont été traités décemment, ont été reçus un salaire décent ? Est-ce que même ils ont été payés ? Comme on a dit un peu plus haut, on ne doit pas retenir le salaire du journalier. Est-ce que c'est le cas pour les gens qui ont participé à la fabrication de mon t-shirt ?
Alors, vous citez des passages de la Torah, à l'écriture desquels on se rend compte que la tzedaka, la charité, tzed et la justice, vous parliez de poids juste tout à l'heure, est le fondement du principe du commerce équitable. Alors, qu'est-ce à dire sur cette tzedaka ?
Alors, avant tout, ce qu'il faut dire, c'est que la tzedaka, on la traduit le plus souvent par charité, mais c'est un mot qui ne convient pas parce que la charité, c'est quelque chose que l'on donne à celui qui n'a pas assez, parce qu'on veut l'aider. La tzedaka, c'est pas parce qu'on veut l'aider, c'est parce qu'on doit l'aider. Parce que tzedaka, ça veut dire justice. Et donc finalement, c'est un droit que le pauvre a sur celui qui est un peu mieux loti. Et je dis pas un droit qu'il a sur le riche, parce que ça, ce serait une vision de lutte des classes qui correspond pas du tout à la manière de penser du judaïsme, mais juste à celui qui a un peu plus, et même à la limite, à celui qui a pas non plus. C'est-à-dire que évidemment, celui qui n'a pas grand-chose, il ne peut pas donner grand-chose. Mais il ne faut pas qu'il se croie non plus exempté du fait de participer à la chaîne de solidarité. Et d'ailleurs, humainement, je crois que la plupart des gens sont naturellement dans cette démarche. On sait très bien que quand il y a des situations difficiles, des catastrophes naturelles, ce sont souvent des gens avec des petits moyens qui, par leur quantité, amènent le plus gros du soutien. Et donc, finalement, les gens qui sont pauvres ou qui sont dans une certaine forme de précarité sont des gens qui savent ce que c'est la solidarité et qui savent aussi donner aux autres.
Oui, mais quand vous dites donner et que vous parlez de précarité, en fait, c'est donner, c'est pas simplement donner comme ça de l'argent, c'est donner les moyens.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est ce que c'est un point fondamental, c'est-à-dire que quand on parle de justice ou quand on parle de, il s'agit pas juste de donner de l'argent pour le prochain repas, il s'agit d'aider les gens à recréer une activité qui soit durable et qui leur permette de vivre. On a dans le Mishneh Torah de Maïmonide, les différents degrés de la Tzedaka. Et une des manières de pratiquer la Tzedaka de manière quasiment idéale, plutôt que de donner à quelqu'un de quoi payer son prochain repas, c'est de lui donner un travail pour pouvoir faire son prochain repas.
Alors justement, certains concepts du marché commercial, tels que le système du microcrédit, qui sont si chers à Jacques Attali, ou celui du commerce équitable, pourrait sembler d'origine récente. On les présente souvent d'ailleurs comme étant nés dans les années 60 ou trouvant leur source dans les mouvements chrétiens d'après-guerre. Pourtant, il est déjà question de tout cela dans le Talmud de Babylone, par exemple. Alors, le principe du microcrédit, je crois que vous avez quelque chose à nous raconter par rapport à un rabbin du 3e siècle de notre ère.
Absolument. C'est-à-dire qu'il y a une manière de prendre conscience de la globalité du système, même quand il est local. Il y a dans le traité Ta'anit, on trouve une histoire à propos de Rav Huna, qui était un sage du 3e siècle de notre ère. Et je vais lire la traduction de la Sugya du Talmud. Rava dit à Rav Ram Bar Papa, raconte-nous quelques-unes des excellentes actions que pratiquait Rav Huna. Rav Huna était vraiment réputé comme quelqu'un de très sage et très bon pratiquant la tzedaka, etc. Et on va avoir une histoire très, très surprenante. Rav Ram lui dit, durant son enfance, je ne me rappelle pas de ce qu'il faisait, mais durant sa vieillesse, je me souviens. Chaque fois, à l'approche du Shabbat, il dépêchait un envoyé au marché. Et tous les légumes qui restaient au maraîcher, il les achetait. Jusque-là, tout va très bien. Et il les jetait dans le fleuve. Évidemment, réaction des rabbins qui entendent cette discussion. Mais pourquoi ne pas les donner aux pauvres? Avec le temps, les pauvres ne compteraient que sur lui et ils ne prévoiraient plus d'acheter par eux-mêmes. Et pourquoi en acheter alors, tout simplement? S'ils ne le faisaient pas, tu les inciterais, les commerçants, à mal agir dans l'avenir en ne produisant pas assez et les prix du marché grimperaient. Donc finalement, il a déjà une conscience de la balance entre l'offre et la demande, et du fait qu'on doit à la fois se soucier et des maraîchers et des pauvres. On doit s'assurer que le maraîcher ne produise pas pour rien et que le cours de la matière première soit assez décent pour rémunérer son travail. Et d'un autre côté, on doit se soucier du pauvre pour l'aider. D'ailleurs, Rav Huna, qui était connu à la fois pour sa sagesse et pour sa grande bonté, il a conscience que le système est complètement global et qu'il ne suffit pas de régler un aspect pour régler les autres. Parce que par exemple, le pauvre, au jour d'aujourd'hui, peut-être qu'il n'a toujours pas les moyens de s'offrir de quoi manger. Et donc Rav Huna, ce que nous raconte la suite du texte, c'est que avant le repas, qu'est-ce qu'il faisait? Il ouvrait sa porte. Et il disait, quiconque a faim vienne et mange exactement comme on le fait traditionnellement ou comme on devrait le faire à l'occasion du céder de Pessah. Et donc, il a parfaitement conscience qu'il y a une première aide d'urgence qui est d'offrir aux pauvres de quoi manger aujourd'hui, mais un véritable projet qui est d'aider le système à le réintégrer socialement. Et là, on en arrive à l'idée du microcrédit ou des recommandations de Maïmonide, qui est qu'on doit aider son prochain à acquérir un travail. Et Maïmonide suggère par exemple qu'on devienne un partenaire commercial, un associé dans une affaire avec quelqu'un qui a peut-être moins de moyens, donc on ne le fait pas pour des raisons économiques pour s'enrichir soi-même, mais indirectement pour aider son prochain tout en lui conférant non seulement les moyens, mais la dignité qu'il y a à pouvoir subvenir à ses propres besoins par lui-même.
En fait, donner, c'est donner les moyens à l'autre de parvenir à se renourrir par lui-même.
Absolument, fait, c'est ça. Absolument.
Oui. Alors, quand Maïmonide interprète le fait de « afin que ton frère puisse vivre avec toi », je suppose qu'il fait référence là au fait de s'exclure de la société par le fait de la précarité. Je suppose que
c'est exactement, c'est ce qui était évoqué tout à l'heure dans le verset du Lévitique, quand tu vois que les moyens de ton frère diminuent. Donc en fait, il n'y a pas uniquement quelque chose de curatif dans l'action qu'on nous demande, mais on demande également d'être préventif. C'est-à-dire que quand on voit que la situation de quelqu'un devient plus précaire, c'est le moment où nous devons intervenir et pas attendre qu'il ait perdu tous ses moyens pour lui retendre la main. Finalement, et là aussi on en revient à des actions comme le microcrédit, comme toutes les actions qui en fait soutiennent le tissu social et le tissu commercial, c'est finalement que on doit donner un peu, ceux qui ont les moyens doivent donner un peu d'oxygène à ceux qui sont en menace de difficulté avant qu'ils soient en difficulté. Et c'est quelque chose que l'on doit à la fois aux personnes en question et au système globalement, parce que finalement, si tout s'écroule, ça sera beaucoup plus dur d'aider les autres à remonter, d'autant qu'il y aura peut-être moins de personnes qui auront gardé des moyens suffisants pour le faire. C'est un peu le problème qu'on rencontre dans nos sociétés aujourd'hui, où on doit avoir le souci de l'autre dès le départ et pas attendre, comme si ça nous était un dû, que le système ne soit plus autosuffisant.
C'est ça. Alors, dans quelques instants, nous allons parler d'un des aspects du commerce équitable qui touche à la nourriture. Et en guise d'introduction, je voudrais vous faire écouter un shir hamalot un peu particulier, à savoir que c'est un shir hamalot chanté par les juifs ougandais. Alors écoutez, cela vaut la peine.
Yeah. Sioni.
Hayinu keolamimu.
Hayinu keolamimu.
Hayinu keolamimu.
Hayinu keolamimu.
Nous avons vu avec vous, Rabbi Neger, que Rav Runa, au IIIe siècle de notre ère, donnait à réfléchir sur un juste équilibre des jeux du marché entre les maraîchers à une extrémité et les pauvres exclus de la consommation de légumes à l'autre extrémité. Alors, nous allons donc à présent aborder avec vous la question du commerce équitable en regard de la nourriture, ce qui conduit à aborder bien entendu la problématique de la cache-route, dont il faut rappeler aux éditeurs que selon une définition traditionnelle de la cache-route, il s'agit dans les grandes lignes de l'ensemble des lois alimentaires.
Alors, je vais faire un rapide résumé des grands principes des lois alimentaires. Il y a des animaux qui sont autorisés, des animaux qui sont interdits à la consommation. Pour les mammifères, il s'agit des ovins et des bovins qui sont autorisés à l'exclusion de tous les autres. C'est pas décrit comme ça, mais en fait, en gros, on a le droit de manger du bœuf, de la vache, du mouton, de la chèvre. Pour les poissons, ou du moins ce qui vit dans la mer, on a le droit de manger les créatures qui ont des nageoires et des écailles, c'est-à-dire une grande partie des poissons, mais aucun fruit de mer, et pas la totalité des poissons, comme certains pourraient le penser. Il y a des règles qui ne sont pas dans les choses autorisées ou interdites, mais qui définissent les modalités de préparation. Et là, on a deux grandes familles de règles. Une qui interdit le mélange du lait et de la viande, et suivant les tendances, suivant les moments de l'histoire, avec plus ou moins de rigueur ou d'obsession dans la séparation. Et puis, on a des règles qui concernent la manière de préparer les animaux et qui s'inspirent des règles des sacrifices au temple dans ce qu'on appelle la méthode de l'abattage rituel et qui a pour, je dirais, fonction initiale de respecter l'animal dans la manière qu'on a de le tuer. C'est-à-dire que finalement, puisqu'on doit prendre sa vie, alors on essaye de le faire de manière respectueuse. Maintenant, il faut bien voir que le monde a bien changé et que la perception de nos ancêtres et l'image que se faisaient nos ancêtres ne correspond peut-être plus au monde où nous vivons aujourd'hui.
Enfin, ça, on va peut-être en parler tout à l'heure. Alors, Rabbi Neger, la cache-route, s'agit-il là d'un système rituel ou d'un système éthique ? En d'autres termes, est-ce que cache-route et équité sont-elles indissociablement liées ?
Alors, ma réponse à moi sera oui, mais c'est une réponse où le curseur varie d'un côté à l'autre en fonction des tendances du judaïsme. Je pense que le judaïsme orthodoxe, en tout cas l'image qu'il se donne par son obsession sur certains détails rituels, a tendance peut-être à oublier l'éthique au profit du rite. Et nous insistons sur le côté éthique parce que je pense que la cache-route est avant tout un outil pédagogique pour nous apprendre la responsabilité envers le reste du monde. Les rabbins de l'Antiquité disaient que finalement, ce sont nos tables qui sont nos autels pour les offrandes. Et finalement, ce qu'on veut amener, c'est la sainteté, la sanctification, l'élévation qu'il y avait spirituellement dans le temple, qu'on veut amener dans nos foyers. Donc finalement, le souci éthique, le souci spirituel, il est là dès le départ. Maintenant, pour certains, il peut s'exprimer dans la rigueur du rite, et d'autres par la question qu'ils nous posent et la manière de la mettre en œuvre.
C'est ça. Alors, l'étiquette certifiant de la cache-route affirme uniquement que le produit est conforme aux lois alimentaires, mais ne déclare absolument rien d'une conformité au nom du produit avec les principes d'éthique juive. Certains produits sont libellés cachers, aptes à la consommation, alors qu'ils sont produits selon des méthodes qui exploitent de la main-d'œuvre. J'ai donné l'exemple tout à l'heure du cacao. Nuisent à l'environnement ou entraînent de la souffrance animale. Alors, en clair, donc, des aliments qui sont traditionnellement considérés comme étant cachers, c'est-à-dire conformes aux lois alimentaires, ne le sont pas pour nous parce que la Torah condamne leur condamnation de culture ou d'élevage.
C'est exactement ce que j'évoquais tout à l'heure en disant que les conditions d'élevage, les conditions de l'agriculture, les conditions de travail, telles que les percevaient les rabbins de l'époque talmudique quand ils ont rédigé ces règles, ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Et donc, finalement, les règles que nous avons ne s'intéressent qu'à certains aspects, je pense, de la cacheroute et n'ont pas pu traiter des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Et donc, on peut aujourd'hui se poser la question de savoir si, en plus de savoir si tel animal est autorisé ou interdit, de savoir s'il pourrait être cachère, eh bien, les conditions dans lesquelles il a été élevé interviennent dans la validité, puisque c'est le sens du mot cachère, dans la validité de l'animal à la consommation. C'est une question que se posent en particulier les anglo-saxons, beaucoup d'avance sur nous de ce côté-là. Et aux États-Unis, on a vu une initiative très intéressante à ce sujet, qui est Magen Tzedek. Magen Tzedek, le bouclier de justice, c'est un hecher, un tampon supplémentaire à la cache-route. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne prétendent pas remplacer le tampon de la cache-route des batédines traditionnelles, mais ils disent, nous on va vérifier, en plus que l'animal a été abattu correctement, qu'il est bien cachère suivant les règles, je dirais, traditionnelles, voire orthodoxes, que les conditions d'élevage, c'est-à-dire finalement tous les points qu'on n'a pas traités dans la cache-route traditionnelle, sont respectables, sont acceptables suivant des critères modernes, et en particulier des contraintes et des vérifications sur l'impact environnemental de l'élevage ou de l'agriculture en question, sur la manière de traiter l'animal, de l'élever, est-ce qu'il est élevé en plein air ou est-ce qu'il est élevé en batterie, un certain nombre de choses qu'on trouve aujourd'hui dans des certifications fair trade de commerce équitable ou des certifications bio, pour d'autres raisons d'ailleurs. Mais finalement, c'est un peu le même souci qu'on voit apparaître à l'intérieur du monde juif. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux réponses que sont les labels de commerce équitable ou des labels bio, c'est que là, la réponse n'est pas générique, mais c'est une réponse typiquement juive à ces questions-là. Et elle n'est pas tout à fait identique. Elle participe de la même question, elle participe du même souci, mais elle se pose de manière un peu différente. Et je pense que c'est très intéressant qu'on ait un tampon d'une cache-route étendue à d'autres aspects de l'élevage ou de l'agriculture.
Ça. Alors, vous évoquez à l'instant l'aspect environnemental. Qu'en disent nos vieux textes ?
Bien, là aussi, les textes ne peuvent pas imaginer l'exploitation de la nature telle que nous la pratiquons aujourd'hui, mais elle nous met déjà en garde. Il y a très clairement une interdiction qu'on nomme Baal Tashrit, tu ne détruiras pas pour rien gratuitement, et qui nous interdit, par exemple, d'abattre les arbres fruitiers autour d'une ville lorsque l'on fait un siège. Le bois de ces arbres n'est pas utilisable pour faire des machines de guerre ou pour faire des équipements de siège. Il y a également, dans la Genèse, des injonctions de Dieu faites au premier couple, à Adam et Ève, qu'ils doivent non seulement garder le jardin, mais l'entretenir. C'est-à-dire qu'ils ont droit de prendre tout ce qu'ils veulent dans le jardin pour se soutenir, pour se nourrir, mais ils doivent aussi garder en état, entretenir le jardin d'Éden. Et de manière plus générale, la création. Il y a même un Midrash qui dit très clairement qu'on est responsable de l'ensemble de la création. C'est pas parce qu'on est au-dessus, en tant qu'être humain, au fait de la chaîne alimentaire, finalement, que nous avons le droit d'abuser la nature. Dieu le dit très clairement, si, dans le Midrash, si nous abusons la création, il n'y en aura pas d'autre pour nous. Et on n'est pas obligé d'attendre les écologistes aujourd'hui pour avoir cette réflexion. Elle est déjà faite par les rabbins du 3e ou du 4e siècle de notre ère.
Je dis que c'est assez extraordinaire de se dire que cette pensée-là existait déjà il y a si longtemps. Alors, la qualité éthique des produits d'alimentation peut porter sur la question aussi du bien-être des animaux. Rabbi Neger, le foie gras est censé être un aliment cachère et pourtant sa commercialisation à l'échelle industrielle peut impliquer une souffrance animale épouvantable, au même titre que la problématique de l'élevage des volailles en batterie, ou des derniers instants de vie des ovins et bovins soumis à un indescriptible stress avant l'abattoir.
Oui, la cache-croûte telle qu'elle est exprimée dans les milieux les plus traditionnels, du moins dans sa mise en œuvre, je ne parle pas de son explication où la souffrance de l'animal est prise en compte, mais en pratique, la souffrance de l'animal est complètement ignorée à l'exception des derniers instants de sa vie. C'est-à-dire que la cache-croûte, au jour d'aujourd'hui, et c'est là où Magen Tzedek a une démarche intéressante, ne s'intéresse que à la partie abattoir, la mise à mort de l'animal, les dernières secondes de sa vie, et sans dire que ces dernières secondes n'ont pas d'importance, elles ont une importance. Négliger les conditions d'élevage, négliger les conditions de vie de l'animal, c'est se voiler la face, c'est se mettre la tête dans le sable et refuser de voir que là, on abuse l'animal. Donc, finalement, alors c'est vrai que ça, c'est difficile à mettre en œuvre, c'est difficile de remettre tout en question, de réintroduire dans un circuit de surveillance l'ensemble de la vie de l'animal, mais finalement, si on tient compte que de l'abattage, je crois qu'on devient, comment dirais-je, on se découple complètement de la situation réelle de l'animal. Alors, on ne voit que l'animal, on le voit juste comme une barquette dans le supermarché. Or, il a été autre chose avant et on refuse de le voir si on tient compte que de l'abattage.
Alors, ce qui est extraordinaire ici aussi, j'imagine, vous me contredirez si je me trompe, c'est qu'il y a aussi des vieux textes par rapport au respect à avoir de l'animal en tant que créature.
Absolument. Il y a des choses, par exemple, dans l'Exode, on a une injonction qui nous dit que si tu vois l'âne de ton ennemi, même pas ton âne, l'âne de ton ennemi courbé sous sa charge, alors tu dois l'aider.
Qui, l'ennemi ou l'âne ?
L'âne. D'une certaine manière, l'ennemi aussi, parce que d'une certaine manière, ce que ça veut dire, c'est que si tu dois aider l'âne de ton ennemi, c'est que tu es le gardien du comportement même de ton ennemi. C'est-à-dire que même ton ennemi, tu dois l'aider à traiter correctement son animal. Le premier secours, la première action, elle est envers l'animal qui est en train de ployer sous sa charge. Mais finalement, en faisant ça, je suis également en train de voir un travail pédagogique vis-à-vis de mon ennemi pour que lui ne recommence pas à mettre une charge trop élevée sur son animal. Donc, ça, on fonctionne sur deux niveaux à la fois. Donc, on a ce genre d'injonction. On a des soucis qui sont à la fois émotionnels et écologiques, comme par exemple l'interdiction de prendre la mère et ses petits. En particulier, on a le droit, par exemple, dans un nid, de prendre les œufs, mais on n'a pas le droit de prendre la mère et les œufs. Et c'est un commandement qui résonne très, très fort aujourd'hui quand on parle, par exemple, d'exploitation des ressources de la mer et des poissons. Finalement, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit, si tu prends quelque chose pour te nourrir, tu dois t'assurer qu'il y ait possibilité de renouvellement. Et puis, il y a aussi une question de respect, de dire que finalement, même les oiseaux ont le droit à une certaine forme d'amour filial entre les petits et leurs parents. Et finalement, on a un souci de compassion et d'empathie avec la nature.
Alors, ce souci va loin, parce que le jour de Shabbat, on ne fait pas travailler son animal non plus, je pense.
On ne fait pas travailler son animal non plus, bien sûr, mais ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est dit très clairement dans le texte qu'on ne doit pas faire travailler son âne ou son bœuf le jour de Shabbat. Mais les rabbins ont également pris soin de nous dire tu ne dois pas préparer à manger pour toi le jour du Shabbat, mais tu dois t'occuper de nourrir tes animaux, parce qu'eux, ils ne le feront pas tout seuls d'aller se nourrir. Et ça va même plus loin, parce que, par exemple, on doit également traire les vaches. Les vaches laitières, si on ne va pas les traire un jour, elles souffrent énormément. Et donc, une activité qui, par définition, est interdite le Shabbat, pour le soin des animaux, pour le bien-être de son animal, on a l'obligation de le faire.
C'est ça. Alors, Rabbi Neger, les anglo-saxons parlent volontiers d'éco-cache-route. Nous pourrions peut-être, en français, utiliser la dénomination éthique, kashrout, éthique kashrout. Cette exigence supplémentaire donnée à la notion de kashrout ne peut-elle pas s'appliquer en définitive à tous les produits de consommation et non uniquement à la nourriture ?
Bien sûr, on a l'habitude, quand on parle de kashrout, de penser alimentation. Mais comme je l'ai expliqué au départ, kasher, ça veut dire valide. C'est-à-dire que le produit a été fait en respectant toutes les lois qui nous concernent. Et les lois qui s'appliquent aux juifs comme les lois qui s'appliquent aux non-juifs. Nous sommes responsables de l'application des lois qui garantissent la justice sociale envers les non-juifs quand nous agissons en tant que consommateurs juifs. Et ça touche l'alimentation, bien sûr, mais ça touche très fortement le vêtement. Vous avez évoqué tout à l'heure le travail des enfants. On sait très bien que le travail des enfants, c'est beaucoup dans le domaine du vêtement. On a évoqué également dans le domaine du vêtement les conditions de travail ou les produits toxiques ou la dégradation de l'environnement dans lequel les unités de production existent. Ce sont des choses qui nous concernent et qui concernent beaucoup l'industrie du vêtement. On a également l'industrie électronique et vous l'avez aussi mentionné. C'est aussi une industrie qui pose beaucoup de problèmes, à la fois sur les sites de production des appareils, mais également pour les matières premières qu'elle nécessite. Et je dois saluer de ce côté-là une initiative très intéressante qui s'appelle le Fairphone, qui est un smartphone qui essaye, parce que malheureusement, là, il y a quelques points où ils n'ont pas la possibilité ou l'assurance à 100% de pratiquer le commerce équitable sur la totalité des matières premières qui interviennent dedans. Mais ils fabriquent donc un smartphone tout à fait compatible avec les applications d'aujourd'hui qui est conçu selon les principes du fair trade, qui est conçu en tenant compte du démantèlement de l'appareil en point de vue environnemental, qu'il soit facile à démonter, facile à recycler. Et c'est une initiative qui montre qu'on peut dépasser le domaine de l'alimentation et que si, en tant que consommateur, nous nous sentons responsables, alors nous avons la possibilité d'agir dans quasiment tous les domaines de notre consommation. D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui, beaucoup d'industriels ont compris que c'était également un argument de vente. Alors, ça peut paraître un peu cynique de le présenter comme ça, mais je pense que nous devons nous engager de ce côté-là tout en restant vigilants à ce que l'étiquette qui veuille que quelque chose soit fabriqué de manière équitable ou bio ou compatible avec l'environnement durable soit réellement appliquée. Je crois que ça, on doit être vigilant, mais on doit également saluer et rentrer dans cette démarche même si ça nous demande d'ouvrir un peu plus notre porte-monnaie, ce qui n'est pas toujours très facile dans une époque où nous sommes également en crise économique.
Rabbi Neger, merci beaucoup. Nous allons dans quelques instants parler de la pratique en matière d'éthique kashrout avec elle. Mais avant ça, je voudrais vous faire écouter la prière de Birkat Hamazon, donc la prière qui se dit après le repas, d'après une musique composée par le cantor Marshall Portnoy. Alors, qui est Marshall Portnoy ? C'est le vice-président de la conférence des Hazan américains. Il est notamment auteur d'un double volume sur l'art de la cantillation qui est utilisé dans le monde entier.
Oh.
rabbin Neger vient de nous apporter un éclairage fort intéressant sur l'éthique kashrout. Gaël, je vous propose aujourd'hui de nous dire quelques mots sur les pratiques qui entourent la kashrout à travers votre propre vécu.
En effet, plutôt que de vous parler des règles qui régissent la kashrout, que tout le monde trouvera tant dans le Shulchan Aruch que dans tous les livres de judaïsme, et qui, soit dit en passant, changent d'une obédience à l'autre, voire d'une rue à l'autre selon le rabbin qui dirige certaines communautés, je me propose plutôt de vous parler de mon vécu en matière de kashrout.
Gaël, première petite question. Avez-vous toujours mangé kasher?
Non. Quand je suis arrivée à la synagogue Beit Hillel il y a cela 30 ans, j'étais végétarienne depuis une dizaine d'années, par compassion pour les animaux et respect de la vie sous quelque forme que ce soit.
Que s'est-il passé qui fait que vous ayez commencé à manger kasher?
Très vite, j'ai donné des cours de préparation à la bar mitzvah. Je ne pouvais concevoir d'enseigner quelque chose qui soit de l'ordre du théorique, mais que je n'appliquais pas. C'est un peu comme les parents qui fument et qui expliquent à leurs enfants que c'est mauvais pour la santé et qu'ils ne doivent jamais commencer. Ce genre de double langage ne peut avoir que des relents, des conséquences schizophréniques, et le mieux alors est de ne pas aborder le sujet. En outre, j'ai toujours eu en moi quelque chose qui cherchait du sens, et celui que m'offrait l'étude de la kashrout était tel que je n'avais qu'une envie, c'était de la vivre, donc de la pratiquer et de la partager.
Alors, la recherche du sens rejoint ce dont nous parlions avec le rabbin Neger à l'instant. Lorsqu'il nous expliquait à propos de la kashrout, la vision morale recherchée par le judaïsme libéral.
Oui, pour le judaïsme orthodoxe, il n'est pas nécessaire de trouver un sens aux mitzvot. Il faut les pratiquer. Contrairement au judaïsme libéral, où le sens est fondamental dans le cadre des pratiques tant communautaires qu'individuelles. Au niveau de la pratique individuelle, d'ailleurs, nous n'exigeons pas de nos fidèles qu'ils respectent au pied de la lettre telle ou telle règle censée être imposée à tous. Nous donnons les principes, et à chacun, selon que la règle fait sens pour lui ou pas, de faire le choix de la pratiquer ou pas.
Alors justement, en ce qui vous concerne, qu'est-ce qui a donné un sens à la kashrout?
J'ai vécu 4 ans en France, dans une région où 40% de la population votait pour le parti des chasseurs. Et j'ai donc bien connu ce monde. Quand le dimanche, en fin de journée, je longeais les terrasses des cafés, j'entendais et voyais tous ces chasseurs rire et boire et s'amuser en racontant comment ils avaient traqué l'animal avant de l'abattre. Rien à voir avec leur discours sur la nécessité de respecter l'équilibre écologique et donc l'obligation qu'ils avaient de devoir tuer des animaux afin que ces derniers ne soient pas trop nombreux dans la région et que cela n'avait rien à voir avec le plaisir de la chasse. C'est à peine si on n'aurait pas dû les plaindre de devoir être chasseurs. Dans la kashrout, en nous empêchant de manger un animal de chasse, on fait en sorte qu'il n'y a pas de chasseurs parmi nous. 2 avantages. Le premier concerne l'homme, le second, l'animal. Ne pas aller à la chasse, c'est ne pas développer nos instincts primaires, nos pulsions animales, et j'ajouterais morbides. L'ensemble de nos pratiques vont d'ailleurs dans ce sens, nous faire passer de notre animalité vers plus d'humanité, faire de nous des individus toujours plus humains, moraux, éthiques. On ne peut non seulement faire souffrir un animal, mais aussi et surtout prendre plaisir à cette souffrance. Car, comme le disaient les rabbis, cette attitude risque un jour, mis dans certaines conditions, comme la guerre par exemple, que l'on prenne plaisir à faire souffrir un être humain, ou au moins à ne pas être perturbé par le fait de faire souffrir un homme, une femme, un enfant dans certaines situations. Le second avantage concerne l'animal. Ne pas faire souffrir un animal. Je reviendrai dans un instant. En tout cas, dans ce domaine, la kashrout nous dit qu'on ne peut manger que des animaux d'élevage.
Alors, je suppose qu'il y a d'autres règles dans la kashrout qui vous ont parlé?
Bien sûr. En voici une autre. Il faut casser la chaîne de la mort. Si on mange un animal, il ne peut s'agir que d'un animal qui lui-même ne tue pas pour se nourrir. Donc, un animal qui ne mange que des végétaux.
Alors Gaël, il y a également cette règle qui peut tout de même paraître évidente, selon laquelle il est interdit de manger une partie d'un animal qui est encore vivant.
Évident, je ne sais pas. Quand j'explique tant aux enfants qu'aux adultes qu'à l'époque biblique, dans le désert, certains coupaient la patte d'un chameau, cautérisaient et le laissaient au sol jusqu'au moment où on refaisait la même chose avec la seconde, puis la troisième, puis enfin la dernière patte de la bête. Tout le monde cria l'horreur. Mais le silence se fait quand je parle des cuisses de grenouille. On les passe dans des machines qui leur écartent les pattes, puis les coupent. Ensuite, les grenouilles tombent dans des bacs les unes sur les autres, meurent petit à petit exsangues ou étouffées. Pour l'époque biblique, puisqu'il n'y avait pas de frigo, on pourrait éventuellement comprendre. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut survivre sans de telles pratiques. Mais c'est si bon, paraît-il, les cuisses de grenouille.
Alors, tout à l'heure, à propos de l'éthique à Schrute, nous avons évoqué la maltraitance animale. Alors, sans rentrer dans le détail, la manière dont les animaux destinés à l'alimentation humaine étaient traités, même lorsqu'il s'agit de viande censée être cachère. Car il s'agit de choses qui ne sont pas toujours agréables à entendre.
Peut-être, me direz-vous, Jacqueline, qu'il ne faut pas parler de ces choses. Ça pourrait gêner certains de nos auditeurs ou de nos fidèles. C'est exact. À ce propos, je voudrais quand même dire que j'ai lu, il y a des décennies, plusieurs livres sur l'horreur de ce qui se passe dans les abattoirs. Puis, avec les années, j'ai vu des films et lu encore d'autres documents, tout aussi horribles, sur la façon dont sont élevées les volailles en batterie. On leur coupe le bec pour qu'ils ne se piquent pas les uns les autres. Ils sont entassés dans des cages minuscules. Cela, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde le sait. Par contre, peu savent que c'est à peu près ce qui se passe pour les veaux ou les cochons, qui ne voient jamais le jour, qui sont entravés dans leur mouvement, dans des cages qui les immobilisent totalement pour qu'ils grossissent plus et plus vite. Je n'en dirai pas plus. Les gens préfèrent ne pas savoir, sinon la majorité de la population serait végétarienne. Ne pas entendre, ne pas voir, ignorer ou faire semblant d'ignorer, c'est un choix que je ne fais pas. Mais chacun est libre de ses choix. Il ne s'agit pas de culpabiliser qui que ce soit, juste de dire que c'est bien de temps à autre de penser aux répercussions de nos actes. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'on doit tous être végétariens. Même si je l'ai été presque 30 ans, je ne le suis plus, comme je l'ai dit. Mais on peut manger d'autres animaux que ceux de batterie, ou n'acheter que des œufs de poule élevés dans la nature. Et surtout, on peut très bien vivre en mangeant moins de viande. Outre qu'il est prouvé que c'est mieux pour notre santé et que beaucoup de maladies de notre époque sont liées à la surconsommation de la viande, cela permettrait aussi à ce que la majorité de la population qui meurt de faim aujourd'hui puisse se nourrir décemment. En effet, il faut près de 30 à 40 kilos de protéines végétales pour obtenir 1 kilo de protéines animales. Faites le compte. Et je ne parle pas même de la pollution provoquée par les gaz des bovins, ou des forêts qui sont détruites pour élever des animaux dans les pays d'Amérique latine, par exemple. Quand on parle des destructions de forêts, il faut penser qu'il y avait aussi des gens qui vivaient dans ces forêts.
Mmh. Gaël, la cache-route pour vous, dès l'époque de l'introduction dans votre assiette de produits carnés, s'est-elle faite en respectant les règles d'éthique dont nous avons parlé tout à l'heure?
Pour l'orthodoxie, on ne peut pas faire souffrir un animal lors de l'abattage. Et elle donne une série de règles qui vont dans ce sens, comme par exemple le fait que le couteau qui va égorger l'animal doit être aussi affûté qu'une lame de rasoir, qu'il ne faut pas qu'il y ait la moindre aspérité pour que l'animal soit tué en un seul geste et ne souffre pas. Et c'est une très bonne chose. Bien sûr, ces règles datent d'une époque où, de son vivant, l'animal était élevé dans la nature. Il mangeait ce qu'il y trouvait. Il n'y avait donc pas lieu de parler de souffrance de son vivant. Mais pour moi, le respect de l'esprit de ces règles, c'est tout simplement de ne pas faire souffrir un animal, que ce soit lors de sa mort ou durant toute sa vie. Et donc, dans la pratique, depuis que j'ai recommencé à manger de temps à autre, rarement, de la viande, et essentiellement pour des raisons sociales d'ailleurs, je n'achète effectivement que de la viande d'animaux qui ont été élevés dans de bonnes conditions. Donc, soit de la viande bio, soit de la viande d'animaux élevés dans la nature, comme celle de la société Coprosin qu'on trouve sur de nombreux marchés du pays. Je me plais à considérer que ma cache-route est donc plus stricte, voire cachère, que la cache-route orthodoxe, car plus respectueuse de l'esprit qui guidait les rabbins d'antan.
Nous n'aurons malheureusement plus le temps d'évoquer le sens des nombreuses autres règles alimentaires Nous n'aurons malheureusement pas le temps non plus, comme à l'accoutumée, de revoir ensemble une lettre de l'alphabet hébraïque, Gaëlle. Mais je voudrais quand même encore vite vous poser une dernière question à propos des nombreuses autres règles alimentaires qui ont orienté votre choix de manger des tikka shrout.
Effectivement, disons, pour faire rapide, que je retiens pour ma pratique personnelle ce concept tellement plein de sens des tikka shrout dont nous venons de parler. Mais donnez-moi quelques secondes, Jacqueline, pour rappeler un principe important dans le judaïsme. La tradition nous dit que la spiritualité, l'équilibre physique, dépendent de ce qui est à gérer par chacun de nous. Autrement dit, on ne se nourrit pas seulement pour satisfaire à un besoin physique, mais pour s'élever, pour nous animer, littéralement, pour nous donner une âme. D'ailleurs, en hébreu, manger, ma'achal, est composé des mêmes lettres que le mot malach, ange. À travers cette similitude de consonance, il y a la possibilité pour chacun d'élever la nourriture pour épuiser sa force spirituelle.
Merci Gaëlle, je suis vraiment désolée qu'on n'ait vraiment pas le temps de parler de la lettre du jour.
Ce sera pour la prochaine fois.
Nous allons à présent passer à l'agenda communautaire de la synagogue Beth Hillel. Ce samedi 22 mars à 20h30, notre chazanit Aviv Weinberg interprétera des psaumes en hébreu dans le cadre d'un concert organisé par Beth Hillel, conjointement avec les grandes heures de la Cambre à Bruxelles, à l'abbaye de la Cambre. Ce concert a pour thème le chant des psaumes à travers les traditions. Toutes les informations sur ce concert, qui s'annonce magnifique, figurent sur notre site www.bethillel.org. Le vendredi 28 mars, à l'issue de l'office de Kabbalat Shabbat, qui débutera comme à l'accoutumée à 19h, aura lieu un repas shabbatique communautaire. Bienvenue à toutes et à tous, à condition d'apporter vos plats, sans viande ni volaille. L'après-midi du dimanche 30 mars sera celle de la foire aux livres à Beth Hillel. De 14h à 18h30, venez nombreux à ce rendez-vous de la lecture et de la vente exclusive d'objets de Judaïka au profit de la bibliothèque de Beth Hillel. L'entrée sera libre et il y aura un buffet de sandwichs. Et enfin, pour clôturer l'agenda, notez également que le lundi 14 avril, le CEDER communautaire de Pessah débutera à 19h. La réservation est indispensable et doit impérativement se faire avant le 4 avril. Inscription online sur notre site www.bethillel.org ou en téléphonant au secrétariat au 02 332 25 28. Merci à vous, Gaëlle, de nous avoir raconté votre expérience personnelle des lois alimentaires. Merci, Rabbi Neger, infiniment. À vous d'avoir accepté de venir vous entretenir avec nous à l'antenne du commerce équitable et de l'éthique kashrout. Nous arrivons déjà malheureusement au terme de notre émission. Merci à vous tous et toutes, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Si vous avez manqué une partie de l'émission, vous pouvez l'écouter à nouveau en vous rendant sur notre site www.bethillel.org. Un trait d'union entre Beth Hillel, enfin entre Beth et Hillel, pardon, dans l'onglet publication. Au nom de toute l'équipe de la communauté israélite libérale de Belgique, synagogue Beth Hillel, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et vous dis à dans 15 jours.